ça a coupé la faible système. Vous savez, je ne sais pas si c'est pas. On n'était pas beaucoup plus vite. Maintenant, on a eu des sujets très intéressants. Je vais vous les lire. L'association Tirard Réflexion, une association de réflexion et de culture, elle existe depuis 33 ans. Alors, on a plusieurs activités. On a donc une réunion tous les deuxièmes mardis de chaque mois pour discuter entre les adhérents et puis un petit peu ce qu'ils vont faire. Le quatrième mercredi de chaque mois, on a une conférence. Tous les jeudis du mois, de la semaine, quoi, on a une séance de philosophie, un atelier de philosophie. Tous les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes vendredis, on a des cours d'espéranto. Ce sont des cours gratuits. C'est pas mal suivi, ça. Et avec le centre espagnol, tous les mercredis, on a des séances d'espagnol. Alors, on peut apprendre l'espagnol. Alors, nous commençons. On vient de finir la saison se coupe en deux, hein, c'est-à-dire 2017-2018. Alors maintenant, après la fête de notre temps, c'est 2018-2019. Alors, la saison dernière, on a fait, alors on a présenté Amnesty International, la question des votes des étrangers, qui est animée par Claude Kourou, qui est là. Le programme réformateur de Robespierre, par Laura Bardou, qui est une professeure au lycée. Le capitalisme enferme la vie humaine dans un monde qui n'a pas de sens. Alfredo Gomez Müller. C'est un professeur de philosophie, ouais, très intéressant, qui nous a fait une conférence magnifique. Julien Dupont nous a fait la géothermie, alors l'obésité par Jean-Luc Marcier, laïcité, histoire et actualité par Claude Kourou aussi, la non-violence chez Albert Camus par Lou Marin. Alors donc, on finit la saison avec Lou Marin. Alors, Lou Marin m'a été invité par notre ami Grec. M. Dutheil est invité par M. Grec, qui est un animateur aussi d'Excera. Alors, vous avez donc quelques documents là-bas. Alors, Excedra organise pour 2019 un grand événement à Luçon, c'est le Congrès national de l'espéranto. Alors, c'est un événement très important et on espère qu'on aura une réussite. Alors, je vais passer donc la parole à M. Dutheil. Je ne peux pas vous le présenter, je ne le connais pas, le monsieur.
Dominique, moi.
Je demanderai qu'il se présente lui-même. Bien. Parce que M. Dutheil, c'est M. Grec qui me l'a invité. Alors, ce sont des personnes que je ne connais pas, moi. Ils ne m'ont pas mordu. Alors, ils ne sont pas méchants. Alors, à la parole à un de vous deux, je ne sais pas qui c'est qui commence.
Tant que j'y aille tout de suite.
Oui, tout à fait.
Oui, je pense que ça attire plus grand monde, 68, parce qu'on en a un peu soupé de l'anniversaire de 68, là, pendant deux mois. Ça n'a pas arrêté sur les médias, un peu partout, et je pense que là, un peu, on a un peu marre. Et que ça se répercute aussi un petit peu sur le... par l'échec, un peu, la lassitude aussi, après l'échec du dernier mouvement social qu'on a pu vivre. Il y a un petit peu une baisse de régime. Alors bon, je vais quand même en parler, puisque je me présente rapidement. Donc moi j'étais étudiant à Nanterre, donc un des créateurs du mouvement du 22 mars, dont on a pu parler, dont on va reparler tout à l'heure. J'étais un militant libertaire. Je suis toujours un militant libertaire. Et après, j'ai fait différents types de boulot, et en particulier dans l'imprimerie et dans un peu l'édition de bouquins, etc. Voilà. Alors, pour parler de mai 68, ça me paraît intéressant de faire un rapide de tour d'horizon des anniversaires sur le thème que les commémorations, les anniversaires nous en disent au moins autant sur la période actuelle, la période dans laquelle on commémore, que sur l'événement lui-même. On ne commémore pas de la même manière suivant l'ambiance politique, suivant ce qui se passe dans une société. Et rapidement, je pourrais dire que le 10e anniversaire, il n'a pas eu lieu parce que mai 68, c'était encore mai 68, 10 ans après, dans la mesure où, selon moi, mai 68, ça n'a pas duré 2 mois, ça a duré 10 ou 12 ans, ça a commencé dans les années 62, 63, et ça s'est terminé à la fin des années 70, et ça a été enterré par l'arrivée de la gauche au pouvoir. Donc, les 10 ans, on n'en parle pas. Les 20 ans, alors ça a été une forme d'enterrement de mai 68, et à chaque fois, je vous parlerai d'un livre qui a été emblématique, le livre qui s'est le plus vendu en 88, ça s'appelle « Génération ». C'est un bouquin qui a été tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires, et qui imprime un peu une idée sur 68, à savoir que mai 68, c'est la saga, ce bouquin, c'est la saga d'une centaine de personnes, tous plus ou moins étudiants étant passés par l'Union des étudiants communistes, en grande partie devenus maoïstes, c'est-à-dire restés staliniens, malgré tout. Et c'est une somme d'histoires individuelles faisant comme si être 68ard, c'était marqué par une origine sociale, un parcours politique et surtout une tranche d'âge. Alors que, pour moi, 68ard, outre le fait que le tard a une connotation dans la langue française un peu péjorative, mais ça, c'est pas grave, pour moi, les 68ards, c'est les gens qui ont participé à mai 68, de manière positive. C'est-à-dire que je peux difficilement dire que Michel Debré est un 68ard. Je peux difficilement dire. Donc, ce sont des gens, effectivement, pour beaucoup d'une tranche d'âge de nés après-guerre, mais pas seulement. Parmi les 10 millions de grévistes, il y a eu des 68ards qui avaient 70 ans. Bon, voilà. Donc, pour moi, je donne un contenu politique, plus politique à 68ards que démographique. Ce bouquin, donc, il résume mai 68, finalement, à l'histoire d'une génération, comme son nom l'indique, mais aussi à un aspect culturel. C'est-à-dire qu'il va revenir à travers ces gens-là sur ce dont on a beaucoup parlé après 68, à savoir les changements culturels dans la société. On en reparlera, on en discutera. Ça va depuis la critique de l'école, les mouvements féministes, les mouvements homosexuels, les mouvements de critique de hiérarchies en général. Mais il occulte complètement ce qui pour moi est important, c'est comment ça a pu se faire, qu'est-ce qui a fait que ces mouvements ont pu émerger. Et effectivement, je pense que ces mouvements n'ont pu émerger que parce qu'il y a eu une grève générale des salariés pendant 5 ou 8 semaines. On y reviendra. 10 ans après, le processus d'appauvrissement et d'éradication des racines de mai 68, il a été achevé par un autre bouquin qui s'est beaucoup vendu. Donc on est là en 98, si je ne me trompe, qui est un bouquin d'un nommé Le Goff, qui s'est beaucoup vendu et qui s'appelle L'héritage impossible. Et lui, il avance une... Alors, il est emblématique de la période, en ce sens qu'il dit d'emblée, je vais vous parler de mai 68 dans l'introduction, mais je ne vous parlerai ni de la province, ni des ouvriers, ni des syndicats. Voilà, donc on voit, pas besoin d'insister, c'est quand même une vision un peu réduite de mai 68, et pour lui, mai 68, c'est une crise d'adolescence. Une crise d'adolescence de cette génération jeune, etc., qui passait mal sa puberté, c'est-à-dire nous, moi, et une crise d'adolescence plus globale de la société qui avait du mal à accéder à la modernité. C'est-à-dire, c'est la thèse qu'on nous sert souvent, c'est à chaque fois que vous vous opposez à quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est que vous êtes opposé à la modernité, donc que vous refusez le changement, donc vous êtes axé sur le passé, et vous passez mal à l'âge adulte. C'est le même discours que sert Macron en ce moment, à peu près, en gros. Hein. Mais à partir de... Là, c'est l'anniversaire de 98, mais en 95, il s'est passé quelque chose dans la société française. C'est la grande grève de 95. C'est la grève de cheminots, c'est l'apparition des coordinations infirmières, étudiantes également. Et c'est une certaine remontée des luttes sociales, des luttes de salariés, qui vont imprimer le 40e anniversaire de 2008. Et là, en 2008, on va avoir un autre discours qui va apparaître au niveau des livres, à mon avis, pour moi, beaucoup plus intéressant et sérieux. C'est le livre de Xavier Vignat qui s'appelle « L'insubordination ouvrière » et qui revient sur l'histoire du mouvement ouvrier en France au cours des années d'avant 68 et pendant 68. C'est un bouquin d'une... une sociologue américaine, Christine Ross, qui écrit aussi sur mai 68 de manière complètement différente. C'est-à-dire que le discours qui est un peu plus porté en 2008 sur mai 68, il en fait plus un mouvement social. Il revient sur le mouvement social. Il revient sur quelque chose qui avait été complètement occulté, à savoir cette grève générale. Qu'est-ce que ça a été que cette grève générale ? Et l'anniversaire suivant, c'est-à-dire le nôtre, j'ai pas grand chose à en dire parce qu'on sait pas encore comment il vient en pleine accession de Macron. Le discours du pouvoir par rapport à 68 a été complètement tu, puisque pendant un moment Macron envisageait de fêter mai 68, de faire une espèce de célébration un peu officielle, et bien entendu qui aurait été édulcorée, dans laquelle on aurait écarter tout ce qui a trait au mouvement ouvrier, etc., pour en faire une espèce de d'épuration des choses qui sont le plus politiquement correctes et qu'on met en avant, c'est-à-dire le féminisme réduit à la parité, au sommet de l'État, par exemple, l'homosexualité réduite au mariage, l'écologie réduite à De Rugy. Voilà, des choses qu'on transforme en politiquement correctes, alors qu'au départ, à mai 68 et dans l'après-mai 68, ces choses-là, ces aspects-là de l'oppression ont émergé, mais comme élément contestataire, comme élément critique, comme élément subversif et contestataire du capitalisme. Et évidemment, il s'agit de transformer ces choses-là en éléments qui confortent le capitalisme et qui confortent les propositions de Macron de modernisation de la société, donc sur l'anniversaire. Mais après, il est revenu en arrière parce que, sans doute, célébrer ça de manière trop visible, ça tombait en plein mouvement, après le mouvement contre la loi travail, ça tombait dans le mouvement de la grève de cheminots, et prudence oblige, parlons peu de mai 68 parce qu'on ne sait pas trop où ça va nous mener. Voilà, bon, donc on ne va pas trop parler de cet anniversaire. Alors, pour... je voudrais parler un petit peu de ce qu'était, pourquoi je mets l'accent sur le 22 mars. Avant, on va parler de ce qu'est la pensée de 68, parce que j'ai oublié de dire que c'est les élections présidentielles de 2007, qui venaient avant l'anniversaire dont j'ai parlé. Il y avait un grand débat au niveau des présidentielles sur la pensée de 68. Les deux candidats, Ségolène Royal et Sarkozy, faisaient un aspect central de en finir avec la pensée de 68. Et c'était vrai aussi bien par Sarkozy, on comprend, on va pas revenir dessus, mais par Ségolène Royal également. Je rappelle les points sur lesquels Ségolène Royal se battait à l'époque, et donc le Parti Socialiste, quand même, faut quand même pas l'oublier. C'était assister sur le rôle fondateur des parents, alors que mai 68 est mené une critique de la famille, une critique des rapports hiérarchiques dans la famille. Elle voulait imposer un certain type de vêtements, d'uniformes dans les écoles, de vêtements pour les jeunes filles, etc. Elle parlait de promouvoir un ordre juste, et l'ordre juste, c'était réintroduire la religion, hein, pour Ségolène Royal, réintroduire la Marseillaise à l'école. Ségolène Royal était contre le mariage homosexuel, il ne faut quand même pas l'oublier, hein.
Elle critiquait les pédagogies en vrac d'Illich, de Freinet, etc. Enfin bon, et retour au service militaire, le tout couronné par une certaine admiration pour la DGSE. Je vous rappelle que c'était l'histoire du Rainbow Warrior, bon, pour ceux qui s'en rappellent. Donc c'était vraiment tout azimut contre la pensée de 68. Si ça va mal, c'est à cause de tout le laxisme qu'il y a eu. Et c'était une espèce de surenchère avec Sarkozy pour toujours en rajouter davantage et y dire des choses concrètes. Et bien évidemment, il n'y a pas que Ségolène Royal. Edith Cresson avait dit à l'époque que Ségolène Royal, c'est le réel moyen pour en finir avec la pensée de 68. Bon. Et donc, il y a toujours une peur dans les pouvoirs de la bourgeoisie que cette pensée de 68, elle revienne au premier plan. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de risques pour eux. Alors, je voudrais parler un petit peu de... On dit souvent que mai 68 est parti de rien. Que c'était un peu une divine surprise, un hasard. Et moi, j'insiste sur un certain nombre de choses qui se sont passées avant 68, en particulier dans le mouvement, ce qu'on peut appeler ouvrier, dans les grèves. Ça commence en 64-65 et on en parle assez peu des nouvelles grèves qu'il y a dans différents secteurs, en particulier dans des secteurs qui sont en plein développement. Je donne toujours l'exemple de l'ouest de la France, par exemple dans l'automobile. On s'installe dans les zones semi-rurales, semi-urbaines à la périphérie des grandes agglomérations, comme à Caen, comme au Mans, comme à Fougères, comme autour de Nantes, des entreprises qui ont énormément besoin d'une nouvelle main-d'œuvre qu'on appelle les ouvriers spécialisés, les OS. Les ouvriers spécialisés, leur seule spécialité, c'est justement de ne pas en avoir et donc d'être corvéable à merci, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes qui sont issus de la campagne, d'une campagne qui est en train de se désertifier progressivement, concentration agricole, donc évidemment il y a de moins en moins d'emplois dans les campagnes, et beaucoup de jeunes vont trouver du travail en allant à la ville, alors à 10, 20, 30, 40, 50 km de chez eux, pour travailler dans des usines comme la Savième, comme Renault, véhicule industriel, comme les chantiers navals à Saint-Nazaire, comme chez Dubigeon à Nantes, mais aussi à la Rodiaceta, à Lyon ou à Besançon. Et ces ouvriers spécialisés, les tout premiers temps, ils ne sont pas mécontents d'avoir du travail, évidemment, comme tout le monde, pas mécontents de quitter la campagne, où quand on a 18-19 ans, la ville, c'est les boîtes de nuit, c'est la belle vie. Et ils déchantent très très vite, parce qu'ils ne sont pas habitués à être complètement encore des esclaves salariés. C'est-à-dire, ils travaillent à la chaîne. D'un seul coup, ils se mettent à travailler à la chaîne. Ils gagnent peu, t'imaginais. Et très très vite, ils ne s'adaptent pas du tout. Ils ne sont pas du tout contents, en gros, on pourrait dire, pas contents. Mais en plus, ils n'ont pas de tradition syndicale. Évidemment, ils viennent de la campagne. Et les noyaux syndicaux qui existent dans l'entreprise, c'est les noyaux remplis par une vieille classe ouvrière traditionnelle, un peu plus qualifiée. Et ces jeunes n'ont pas cette tradition syndicale, ils ne sont pas encadrés. Et donc les révoltes et les luttes qu'ils vont mener, ça va être des explosions sociales. Et ça va être des émeutes. Des émeutes comme il y en a eu à Caen. En 67, à l'été 67. De nuit d'émeutes des jeunes ouvriers de la Savième. C'est des manifestations extrêmement violentes à Fougères. C'est des séquestrations, une séquestration qui dure plusieurs mois, et un mouvement d'occupation à la Rodiaceta. Et progressivement, cette révolte de ces jeunes arrive parfois, souvent, dans les grands centres industriels, mais les nouveaux centres industriels à la campagne, à faire la jonction plus ou moins avec le vieux mouvement ouvrier, en particulier avec des éléments de la CFDT qui vient de se déconfessionnaliser, qui est assez forte dans les zones rurales, justement parce qu'elle est déconfessionnalisée, mais tout l'Ouest est en train de se déconfessionnaliser. Et donc il y a une sauce qui prend, qui donne un nouveau caractère important, qui remplit vraiment la vie sociale des deux années qui ont précédé mai 68, et dont on ne peut pas dire qu'elle préfigure, en ce sens qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, c'est évident que mai 68, personne ne pouvait le prévoir. C'est toujours un peu rétrospectif, mais on voit quand même dans ce nouveau mouvement ouvrier des gens qui échappent aux syndicats, des minorités au sein des syndicats qui veulent se battre, des luttes très dures qui se mêlent, et on s'aperçoit donc que quand des conditions sont un peu créées par le début, par mai, tout ça rentre beaucoup plus facilement en grève générale. Alors, cette grève générale, on s'y attendait évidemment pas, mais pourquoi d'un seul coup, elle joue un rôle très important? Pourquoi? Parce que dans une France où tout s'arrête, c'est la panique normalement chez les tenants de l'ordre. Dire que tout s'arrête, c'est le foutoir. Au contraire, c'est extrêmement créatif. C'est-à-dire que pendant un mois et demi, deux mois, c'est une autre vie sociale qui se fait. On ne crève pas de faim, malgré tout, parce que l'approvisionnement se fait quand même toujours plus ou moins, y compris par des grévistes. On s'aperçoit qu'on n'a pas forcément besoin des transports, mais ça, c'est des choses qu'on a vues plus tard, qu'on verra aussi plus tard, en 1995. Rappelez-vous, cette longue grève, en particulier dans les villes où il n'y avait plus de transports, et où, ma foi, on arrivait quand même à vivre. Hein. Et puis, surtout, bon, ça a été dit, c'est pas nouveau, la parole qui se libère. C'est-à-dire les gens qui s'arrêtent, tout s'arrête. C'était le mot d'ordre, on arrête tout et on recommence, quoi. Et ça, il traduit bien l'ambiance. C'est-à-dire que plein de choses se disent, et pas seulement sur les rapports de travail, pas seulement sur les rapports salariés, pas seulement sur la domination du capital, mais sur les dominations générales dans le système. Les gens parlent, échangent, vivent quelque chose de nouveau. On le verra bien dans l'immédiat après 68, se créeront toute une série de mouvements dont j'ai parlé tout à l'heure, homosexuels, femmes, écologie. Ils n'émergent pas ces mouvements en 68, pas dans l'année 68, mais en 69-70, ça laisse des traces. C'est-à-dire que c'est l'arrêt qui a provoqué la grève générale a laissé des traces profondes dans les années qui vont suivre. Dans la société, et traces qui sont plus que des traces, mais et qui existent encore maintenant, malgré la volonté de retour en arrière. Et alors on s'aperçoit, les occupations d'usines, moi je fais toujours une comparaison entre les occupations d'usines de 1936, que je n'ai pas vécues, et celles de 68, que j'ai vécues. C'est-à-dire qu'en 36, rappelez-vous, on voit combien de photos on a des ouvriers sur les murs de l'usine qui occupent leurs usines et on les voit qui dépassent, c'est des images traditionnelles de 1936 du Front Populaire. La classe ouvrière, elle est dans l'usine, elle reste dans l'usine. Pendant le Front Populaire, il y a très peu de manifestations de rue, très peu. On occupe l'usine, c'est un bastion, on n'entre pas dans l'usine, on fait de temps en temps des fêtes pour que la famille vienne, on danse, etc., on boit des coups, mais l'usine, c'est dedans que ça se passe, on y dort, les syndicats, et en grande partie le Parti communiste, contrôlent quand même bien ce qui s'y passe. En 68, les syndicats ont énormément de mal, et les travailleurs aussi, à rester dans l'usine. Il faut y rester, parce que si on occupe l'usine, il faut bien qu'il y ait quelqu'un dedans. Mais on tourne, il y en a très peu à chaque fois. On laisse dans l'usine ce qu'il faut, et les gens n'ont qu'une seule envie. Et quand je parle des usines, je ne parle pas que des usines classiques, je parle aussi des lieux où il y a beaucoup de femmes, par exemple à Paris, les grands magasins, tout ce nouveau prolétariat, en partie féminin, mais qui est groupé, très nombreux, tout le monde a envie d'aller dans la rue. C'est tous les jours qu'il y a des manifestations, il y a des universités occupées, il y a des quartiers occupés, et l'envie générale, c'est d'y participer, c'est de sortir de l'usine. Donc en acte, il y a quelque part l'idée qui germe et qui fait son chemin que le lieu de travail, l'usine, n'est pas le seul lieu de socialisation qu'on peut avoir quand on est un ouvrier, quand on est de gauche, etc. C'est-à-dire que les choses se passent aussi ailleurs, et là aussi, il va y avoir des paroles qui vont se libérer. Et ça va créer une forme relativement nouvelle d'auto-organisation qui sont les comités d'action. Alors je vais en dire deux mots des comités d'action. Dès le 3 mai, c'est-à-dire les premières manifestations étudiantes, là où ça commence à fêter un peu, avant la nuit des barricades du 9 ou du 10, commence à se créer des comités d'action, essentiellement à Paris, mais deux jours après, un peu partout en France. C'est quoi un comité d'action? Un comité d'action, c'est un regroupement de 10, 15, 20, 30, 40, 50 personnes qui se regroupent soit sur leur lieu de travail, soit sur leur quartier, soit sur un problème spécifique qui les concerne. Et ces groupes décident d'agir, c'est un peu des structures de base. Et très très vite, la France est couverte de comités d'action, c'est des milliers de comités d'action qui existent, aussi très très variés, avec des orientations qui peuvent être différentes, des orientations, évidemment les partis politiques essaient de s'en mêler, d'y imprimer leur... Il y a des débats, mais c'est vraiment la structuration de base qu'on n'avait pas connue en 36. Mais par contre, qu'on avait connue, en tout cas je le crois, je n'étais pas non plus, en 1917 en Russie, c'est-à-dire les soviets. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un soviet? Le comité d'action, c'est la forme moderne des soviets de 1917. Hein, c'est un peu la façon dont les gens se regroupent spontanément et en même temps poussé par les partis politiques, par les syndicats, par tout ça, mais c'est des formes beaucoup plus larges que les syndicats, et surtout qui prennent en charge elles-mêmes les trucs. Alors ces comités d'action, ils vont être l'enjeu d'un... On va parler un peu plus politique là, parce que évidemment quand la France, quand un pays se couvre de comités d'action, se pose immédiatement le problème de mais comment se coordonner, qu'est-ce qu'on va faire, à quoi ils vont servir les comités d'action. Et là il y a un grand débat politique qui existe dans les comités d'action, mais qui existe aussi dans le mouvement en général, et dont on parle peu, il faut le dire, dans les commémorations et dans les bouquins, c'est le débat sur à quoi servent les comités d'action. Et en gros, il y a deux tendances. Il y a une tendance, on pourrait dire, d'orientation libertaire, qui dit ce sont les comités d'action qui sont la forme de base de la démocratie et du socialisme, et qui sont, elles, à même de diriger la lutte, de prendre en main, elles sont... Et il y a la position, disons, qu'on pourrait qualifier de plus léniniste, qui dit les comités d'action doivent servir de base à la création du parti ou des partis, suivant les tendances, suivant ceux qui en veulent qu'un seul et ceux qui en veulent plusieurs. Voilà. Et ça, c'est un débat qui a lieu, qui ne sera jamais tranché, parce qu'il n'y a pas eu de parti créé, il n'y a pas eu non plus de révolution. Donc, on ne sait pas, on peut avoir son idée. Mais ce débat, il a lieu à toutes les périodes un peu d'effervescence sociale. Ça a eu lieu en 1917 à propos des soviets. Est-ce que les soviets doivent être servis en partie? Pardon, vieux débat dans le mouvement ouvrier. Quoi qu'il en soit, ces comités d'action, ils n'ont pas été... non seulement ils ont posé le problème, mais ils ont été un petit peu la chair de mai 68 pendant les deux mois. Mais ils ont servi à beaucoup de choses qui se sont passées après. C'est les comités d'action qui ont été à l'initiative. Beaucoup de comités d'action ont, après 68, fait des journaux. C'est-à-dire la floraison de petits journaux de contre-information qui a couvert la France aussi à un moment donné, depuis le petit fanzine jusqu'à un journal à peu, ce sont des comités d'action qui les ont animés, en particulier dans toutes les villes. À Montluçon, il y en a eu. Il y en a eu des journaux de contre-information. C'est les comités d'action qui ont impulsé les radios. Les radios qui ont été légalisées en 81, mais la France est aussi couverte de radios libres, qui étaient des lieux d'expression, des lieux de démocratie, des lieux de pouvoir. Les comités d'action ont donné lieu à des discussions et à des mouvements, par exemple le mouvement des femmes, le mouvement homosexuel. Certains comités d'action ont été des lieux d'approfondissement qui ont donné ensuite lieu à des regroupements qui se sont battus sur telle manifestation. Il y a eu des comités d'action enseignants, qui était à majorité enseignant. Les gens pouvaient appartenir à plusieurs comités d'action. Tu pouvais être dans un comité quartier parce que tu habites le quartier, qui t'occupait des questions de logement dans le quartier. Tu pouvais être dans un comité en même temps de femme, parce que j'ai trouvé que tu étais une femme, mais tu pouvais être aussi dans un comité d'action sur la pédagogie, parce qu'il se trouve que tu étais une femme de tel quartier, dans tel lycée, dans telle école. Et tout ça, ça se brassait de manière assez, assez considérable. Alors, je pourrais parler un petit peu, parce que là, j'en ai pas du tout parlé, c'est du mouvement... on parle beaucoup de mouvement étudiant. Là, quelques points quand même. Le mouvement étudiant est ce qu'il a été à l'origine de mai 68. Les étudiants, certainement pas. Je rappelle qu'à Paris, puisque ça a commencé en partie à Paris, les premières manifestations, il y avait 20 000, 30 000 dits étudiants. Il n'y avait pas que des étudiants, parce qu'il y avait aussi des gens qui venaient du quartier, etc. Mais 30 000 étudiants, ça représentait 10% des étudiants. C'est-à-dire que le mouvement de contestation de la société était minoritaire dans la couche sociale étudiante. Ça, il faut bien le dire, alors qu'on dit maintenant les étudiants. Non, c'était minoritaire. Et après, quand les manifestations sont passées à 60 000, ça va être une fois. Après 1 million, bien évidemment, ce n'était pas des étudiants. C'était des gens de différents, essentiellement des travailleurs. Syndiqués pour beaucoup, mais pas tous, parce qu'évidemment, le taux de syndicalisation à l'époque, il était quasi le même que maintenant, c'est-à-dire en France, ça ne dépasse jamais les 10%. Bon. Donc, il faut y aller doucement sur le mythe du mouvement étudiant. Et ça me donne l'occasion de... Je sais pas combien de temps il y a. Ça me donne l'occasion de parler un peu du mouvement du 22 mars, parce que, enfin, d'abord parce que j'y étais directement, et sur son originalité. L'originalité du mouvement du 22 mars, il s'est créé à Nanterre, dans une faculté qui, en 68, avait 10 000 étudiants, qui était récente, puisque ça date de 1964, et c'était le premier campus... le premier campus universitaire qui est à l'américaine, comment on pouvait dire.
Le 22 mars, la même année.
Oui, oui, le mouvement du 22 mars a été créé le 22 mars 68. Ouais. En tout cas, c'est un mouvement qui existait, mais qui s'est donné ce nom-là à un moment donné. Alors, il s'est basé sur une constatation, en tout cas pour ce qui était le groupe anarchiste, c'est qu'il fallait rompre avec le syndicalisme étudiant qui prétendait représenter tous les étudiants. L'analyse, l'originalité de l'analyse, c'est la critique du devenir des étudiants, du devenir des étudiants comme futur cadre, futur encadreur de la nation, donc encadreur des travailleurs, encadreur... Bon. À partir de cette analyse-là, on ne pouvait pas construire un mouvement revendicatif qui concerne l'ensemble des étudiants. Ça ne pouvait aller que contre... une partie des étudiants. Donc le mouvement qui s'est développé à Nanterre, lui aussi, était extrêmement minoritaire. Mais extrêmement minoritaire, quand il y a 1000 étudiants sur 10 000, ça occupe complètement l'espace. Ça a une hégémonie politique très forte, parce que bien évidemment, les autres ne sont pas forcément actifs réellement. Bon. Donc un peu l'originalité du mouvement de mars, ça a été d'abord de dire... qu'il fallait agir par soi-même et non pas tenter de représenter la totalité d'un corps dans la mesure où les contradictions de classe, c'est pas comme le mouvement des salariés, les contradictions de classe traversent le milieu étudiant. Il y a des contradictions de classe dans le milieu étudiant et que donc il faut choisir de quel côté on est d'une certaine manière. Et à partir de là, il y avait une autre critique qui était faite, c'était le morcellement en chapelle. C'est-à-dire que l'originalité du mouvement du 22 mars, ça a été de dépasser les clivages des petits groupes politiques qui existaient à l'époque, trotskistes, maoïstes, gauche socialiste, anarchistes, avec une forte, évidemment, prégnance du groupe anarchiste, c'est clair, mais de les dépasser en ce sens... de ne pas mettre de côté les divergences, mais d'arriver à faire une certaine unité d'action sur des points essentiels de contestation du système. Et bien évidemment, ça se greffait sur une histoire des dernières années assez forte dans les minorités politisées au milieu étudiant, c'était l'opposition au colonialisme et à la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que beaucoup de ces gens avaient été formés d'une part au soutien aux Vietnamiens, avec des débats, savoir quel régime il fallait mettre à la place. C'était l'époque où il y avait le castrisme, il y avait des guérillas partout. Il y a une montée très forte des luttes en Europe, en même temps des luttes réelles, en même temps un peu de l'imaginaire romantique à l'époque, hein, mais qui anime les gens, qui anime les débats. Et il s'est créé à Nanterre la nécessité d'avoir un milieu, plus que des organisations, d'avoir un milieu révolutionnaire, pour la bonne raison, et là c'est ce qui nous a fait comprendre, et moi qui m'a fait comprendre, que le sentiment d'appartenance à un lieu est déterminant pour construire un mouvement révolutionnaire, à savoir que à la faculté de Nanterre, on était en dehors de Paris, on était isolés. La première année, il y avait une cité universitaire, c'est-à-dire que les gens étaient fermés sur eux-mêmes s'ils ne créaient pas eux-mêmes leur vie. Ils ne pouvaient pas s'en sortir, pas de fric, loin de Paris. Des pioles, c'est un terrain vague, c'était mortel, et il s'est créé une dynamique pour rendre cette chose-là vivable. Et dans ce milieu-là, l'appartenance, le partage, l'affectivité des gens entre eux, partageant le romantisme révolutionnaire de l'époque, la critique du capitalisme, des origines sociales, souvent de salariés, plus bas que le reste des étudiants, ont créé une espèce de dynamique qui a fait que sur la faculté de Nanterre, on est allé beaucoup plus loin que le mouvement étudiant allait ailleurs. C'est-à-dire en occupant des locaux, boycottant des cours, intervenant dans les cours, enfin faire des choses de voyous, considérées comme telles. Voilà. Et en fait, ça a marché, ça a créé cette dynamique. Voilà, ça c'était sur le mouvement du 22 mars. Ça, je me suis pensé que ça fait une demi-heure que...
Oui, un petit peu plus d'une demi-heure.
Ouais, ouais, bah alors, j'ai plein d'autres trucs, mais je pense que je peux y revenir. Je pense que je vais arrêter là, puis s'il y a des questions, je peux répondre à des questions, on peut discuter, j'en sais rien.
C'est le comité d'action, ils étaient fédérés ?
Bah non, oui et non. Il y en avait qui étaient fédérés. Bah justement, c'est ce que je disais, c'était le débat. Fédérer, comment doivent-ils se coordonner et à quoi doivent-ils servir ? Pour se coordonner, il faut savoir pourquoi faire. Donc, est-ce que c'est pour construire le parti, ou est-ce que c'est pour faire la révolution et gérer ou est-ce que ça se... Voilà, il y a ce débat éternel qu'il y a entre les différents groupes. Mais il y avait des coordinations. À la fac de Sancier, il y avait des coordinations travailleurs et étudiants, il y avait des coordinations. Il y a eu des coordinations, mais jamais de coordinations qui ont vraiment regroupé l'ensemble des comités d'action, en tout cas évidemment pas sur la France. Il y a eu des tentatives de faire des journaux, comme les cahiers de mai, mais... C'est pas formellement structuré, à aucun moment ça s'est formellement structuré, et c'était impossible, parce que quand tu veux formellement structurer, tu perds aussi de la... Et puis n'oubliez pas qu'il y avait des partis quand même qui étaient beaucoup plus forts que maintenant, et qu'on peut pas dire que les partis en mai 68 ont joué des rôles extrêmement positifs, enfin à mon avis, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'oubliez pas quand même que la grève générale qui commence le 12 mai, les syndicats n'ont jamais décrété la grève générale, n'ont jamais appelé à la grève générale. La grève générale, elle est partie complètement en dehors des syndicats, complètement.
Ils étaient dépassés, les syndicats.
Bah, ils étaient dépassés, ils étaient emmerdés, parce que, qu'est-ce que tu veux, personne ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle conscience, une telle... Et puis après, bah, il y avait tout le problème du truc international. Bon, je sais pas, je savais quand même qu'il y avait eu un Yalta de partage de l'Europe, et il était hors de question que le Parti communiste appuie un mouvement révolutionnaire en Europe. Enfin, il y a eu des débats dans le Parti communiste, hein, parce que, mais Staline s'était décidé que la France restait dans le camp occidental, quand même. C'est pas un secret, hein. Donc, il fallait quand même contrôler les choses. Et puis la vision de la démocratie, de la façon dont ça se passait, n'était pas tellement celle de 68. Enfin, après, il y a eu des débats sur la reprise du travail, etc. Là, oui, je voulais dire un truc aussi. Les comités d'action ont joué un rôle très important au moment de la reprise du travail, parce que la reprise du travail, elle ne s'est pas faite très facilement quand même, hein. Ça a mis, en gros, en France, pratiquement 3 semaines avant que la reprise du travail ait lieu réellement. Il y a les accords de Grenelle, qui sont des accords qui accordent quand même 10% de hausse, 30% de SMIG, de hausse, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, enfin des choses qui ne sont pas négligeables, bien qu'on sache qu'elles ont été reprises assez vite, hein, parce que c'est question de rapport de force. Mais malgré tout, mai 68 ne porte pas en lui qu'une question quantitative. C'est pas seulement une question d'augmentation de salaire, c'est pas seulement une question c'est aussi une question de temps de travail, c'est une question de rapport au travail, c'est toute une série de choses qui ne sont pas prises en compte par les syndicats et par les partis à l'époque, qu'ils ont mis bien longtemps à évoquer. Après, les gens n'ont pas envie de reprendre le travail, parce que quand on a vécu ce qu'on a vécu pendant 2 mois, où tout a changé dans la vie des gens, hein, reprendre d'un seul coup, partir au chagrin le matin à 8h, ou à 7h, ou retravailler la nuit... ça passe pas bien, quoi. Là-dessus, si vous avez l'occasion de voir des films, il y a un film qui s'appelle La reprise du travail chez Bonder. Une femme est interrogée et dit ce qu'elle pense de la chose. Donc, la reprise du travail, il y avait des gens qui voulaient pas reprendre, et les comités d'action ont joué un rôle important pour soutenir les gens qui voulaient pas reprendre le travail. Ça a été assez difficile. L'épisode le plus connu, c'est Flins, la bataille de Flins. Une bataille rangée entre la police protégeant les jaunes qui ont été embauchés par le patronat et les grévistes qui voulaient, dont beaucoup étaient des travailleurs immigrés.
Alors, dans l'affiche là, qu'on m'a donnée, il y a une question, c'est mai 68, 50 ans après. Alors, qu'est-ce que vous répondez à 50 ans après ?
Bah, ce que je vais me dire, je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'il y a ? La question que vous posez.
Ouais.
Mai 68, 50 ans après.